Avant de commencer, je me rappelais qu'il y avait trois personnes qui étaient intéressées par le livre L'Arche de Noé. Deux se sont manifestées et la troisième, si elle voulait bien faire signe tout à l'heure, ce serait très gentil. Enfin, sinon, je le mettrais en vente en bas, mais ce serait pour ne pas décevoir celui qui avait passé une commande. Alors, nous continuons notre étude de l'Ancien Testament. La dernière fois, nous avons étudié la vie d'Abraham. Grâce à la chronologie de l'Ancien Testament, vous avez pu situer à peu près Abraham. Abraham qui est descendant de Sem. Sem, un des trois fils de Noé. Noé lui-même descendant de Seth, descendant d'Adam et Ève. Alors, nous avions appelé la conférence « Abraham, champion du monothéisme » parce qu'en fait, c'est sûr qu'Abraham a surtout manifesté une foi extraordinaire. Foi extraordinaire qui tient tout d'abord au fait qu'il vivait dans un pays qui était plutôt idolâtre, un peuple idolâtre qui adorait des tas de faux dieux. On a vu son père Taré, qui avait chez lui des tas de statues de faux dieux. Sa foi s'est encore manifestée lorsqu'il a tout quitté pour suivre l'appel de Dieu. Va, quitte ton pays et rends-toi dans le pays que je te donnerai. Il partait à l'inconnu. Et sur le champ, Abraham quitte tout. Et la foi d'Abraham a été encore plus grande, sans doute, le jour où le bon Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique. Auparavant, il lui avait dit que ce fils serait père d'une grande nation, et voilà que maintenant il lui demande de le sacrifier. Ça semblait contradictoire. Mais malgré tout, puisque Dieu a parlé, Abraham obéit. Et au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu intervient, puisqu'il voulait simplement tester sa foi. Et à cette occasion, il va renouveler ses promesses. Et ensuite, après la foi d'Abraham, nous avons aussi dit un mot d'Isaac et de Jacob. Isaac, le fils d'Abraham, et Jacob, son petit-fils. Et on a vu en particulier la patience de Jacob. Jacob qui est obligé de travailler 7 ans supplémentaires pour pouvoir épouser la femme qu'il aimait, Rachel. Patience encore lorsqu'il devra travailler pendant très longtemps au service de Laban, et Laban qui changera à maintes reprises ses pactes pour pouvoir s'enrichir indûment sur le compte de Jacob. Et enfin, je vous ai de nouveau raconté cette si belle histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères et élevé ensuite vice-pharaon d'Égypte. Lui aussi a dû pratiquer la vertu de patience, tout d'abord pour supporter la jalousie de ses frères, puisqu'il avait eu des songes comme quoi il devait être supérieur à ses autres frères. Ses autres frères devaient même l'adorer. Et ensuite, supporter encore la jalousie de la femme de Putiphar, Putiphar qui était un des plus grands dignitaires de la cour. Et ensuite, on a conclu par la bénédiction de Jacob. Jacob qui bénit ses 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre grande figure de l'Ancien Testament, Moïse. Comme nous l'avons vu dans la chronologie de l'Ancien Testament, Moïse, lui, est un descendant de la tribu de Lévi. Lévi qui est donc un des 12 fils de Jacob. Il est né environ vers 1240 avant Jésus-Christ. Il va incarner le modèle de chef. Aucun homme n'a rempli une mission plus considérable dans l'histoire du monde que Moïse. Faire passer 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 3 millions de personnes, d'Égypte en Palestine, en vivant pendant 40 ans dans le désert, dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Même parmi les plus puissants dictateurs dans l'histoire de l'humanité, ou même l'histoire également des conquérants les plus audacieux, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Il ne faut pas oublier que le peuple hébreu, lorsque Moïse en a pris la charge, n'était en ce moment-là encore qu'un agrégat de tribus, sans cadre solide, et c'est lui qui va en faire une nation. Il va le doter, ce peuple, d'une double hiérarchie politique et religieuse, lui-même s'occupant de la direction politique de la nation et laissant la hiérarchie religieuse à son frère Aaron. Il va établir un code de loi minutieux pour régler les problèmes qui se poseront aux Hébreux. Et on le verra allier à la fois la plus grande fermeté à la plus grande bonté, une bonté sans pareille. D'un côté, et c'est vraiment une des caractéristiques de l'Ancien Testament, on voit la justice de Dieu qui se manifeste, et Moïse lui-même ne va pas hésiter à frapper les coupables chaque fois qu'ils vont s'écarter de la loi de Dieu. Mais d'un autre côté, on le voit proche même des petites gens. Il est toujours prêt à résoudre les problèmes des personnes qui viennent le trouver. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que Moïse ne recherche jamais sa gloire personnelle. Son seul souci, accomplir la volonté de Dieu et rechercher la gloire de Dieu. Et c'est en ce sens, sans doute, que Moïse, même si donc par sa personnalité nous dépasse, nous devons, chacun d'entre nous, chercher à imiter également ce sens qu'il avait de Dieu et de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous peut se poser la question, qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? C'était toujours la question qu'il se posait. Est-ce que ce que je fais, c'est ma propre volonté, ou est-ce vraiment la volonté de Dieu que je cherche à accomplir dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment conscience que Dieu a un dessein particulier sur moi et que je me dois de le chercher et de le suivre? Et si nous demandons maintenant d'où est venue à Moïse la force d'accomplir une telle mission, cela tenait sans doute en partie à ses qualités naturelles. Le bon Dieu choisit des hommes qui sont proportionnés, qui ont des vertus proportionnées à la mission qu'ils doivent remplir. Mais c'est surtout aux vertus surnaturelles qu'il faut se pencher pour voir comment Moïse a accompli sa mission, et en particulier les vertus d'humilité, de douceur, d'obéissance. Alors essayons de regarder maintenant sa vie de plus près, puisque nous aussi il nous faut essayer durant cette vie d'échapper à notre tour à la tyrannie du Pharaon, afin de traverser nous-mêmes sains et saufs le désert de la vie présente et de mourir nous aussi en contemplant de nos yeux, comme Moïse l'a vu, la vraie terre promise, celle que Dieu réserve à ses élus, à savoir le ciel. Alors maintenant, nous allons voir de plus près la vie de Moïse. Pour ceux qui ont vu le film Les Dix Commandements, je ne pense pas que je donnerai beaucoup de choses nouvelles, sinon dans la première partie où j'essaierai de vous montrer un petit peu le commentaire mystique et moral qui peut se rapporter à ces passages de l'Ancien Testament. Mais ensuite, je serai obligé d'abréger parce que la vie de Moïse étant tellement riche et tellement vaste qu'il est difficile de la résumer en une heure. Les pharaons se suivent et ne se ressemblent pas. Après la mort de Joseph, les Hébreux ont continué à habiter paisiblement le territoire qui leur avait été donné par le pharaon, à savoir la terre de Gessen, qui se trouve au nord de l'Égypte, donc du côté de Ramsès, au nord de Memphis. Au moment où Jacob était arrivé en Égypte, ils étaient 70, et 215 ans plus tard, ils seront 600 000. Alors ça paraît disproportionné. Mais le bon Dieu, certainement, avait voulu cette prolifération pour que Moïse puisse ensuite remplir sa mission. En tout cas, cette prolifération sera la cause du trouble du nouveau roi, le roi Ramsès II, qui ne connaissait pas le pharaon qui avait vécu du temps de Joseph. Alors, voyant le nombre des Hébreux comparé à ceux des Égyptiens, il s'inquiète. Et il craint un soulèvement du peuple hébreu contre lui. Aussi, il va contraindre tous les Hébreux à remplir des tâches humiliantes et même des travaux forcés, puisque d'après Don de Montléon, le régime des Hébreux était alors analogue à celui des camps de concentration. Et tous ceux qui cherchaient parmi les Hébreux à échapper à ce régime étaient tous punis de mort. Alors finalement, entre la chaleur, l'épuisement, les épidémies, la nourriture infecte qu'on leur donnait, ils mouraient comme des mouches. À quels travaux on les employa ? Essentiellement à la construction de digues et de canaux pour régulariser le Nil, que vous voyez. Également les fortifications de grandes villes et surtout la construction des fameuses pyramides d'Égypte. Et le plus pénible était sans doute le transport de ces énormes pyramides et ces énormes statues une fois qu'elles étaient édifiées. Il fallait les transporter au lieu de leur érection. Et c'est alors qu'un prêtre égyptien, très versé dans les sciences occultes, va faire savoir au pharaon que parmi les Hébreux devait naître un enfant extraordinaire qui rendrait aux Hébreux une gloire immortelle et devait humilier l'Égypte. Alors le pharaon, lorsqu'il apprend ça, il craint pour son trône et il décide de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Et il va confier cette mission à deux sages-femmes. Mais celles-ci, qui sans doute craignaient Dieu, et puis également avaient un certain instinct maternel tout simplement, n'oseront pas suivre l'ordre du roi. Mais en voyant que son ordre n'est pas suivi, il va demander à tous les Égyptiens de jeter dans le Nil les enfants des Hébreux sous peine de mort. Et c'est ainsi que très rapidement, toutes les rives du Nil vont se couvrir de petits cadavres rejetés par les eaux. Cette persécution après la mort de Joseph est analogue à la persécution que connaîtront les chrétiens après l'ascension de notre Seigneur. Et donc on peut dire qu'il y a une analogie entre la persécution connue après la mort de Joseph et celle connue endurée par les premiers chrétiens. Donc l'Ancien Testament, dans ce sens-là, est à nouveau figure du Nouveau Testament. Le pharaon qui exhorte son peuple à persécuter les enfants d'Israël est également l'image de Lucifer. Lucifer qui va appeler ses suppôts à lutter contre les saints. Épisode maintenant de la corbeille de Jon. Un Hébreu du nom d'Amram avait épousé une femme qui s'appelait Jochabed et qui appartenait comme lui à la tribu de Lévi. Il avait déjà deux enfants, Marie et Aaron. Et au moment de l'édit de Ramsès, voilà qu'un troisième enfant vient au monde. Et Dieu va lui faire savoir que c'est lui qui doit délivrer son peuple de la servitude des Égyptiens. Alors il se met d'accord en ce moment-là avec sa femme pour le cacher pendant 3 mois. Mais s'il est possible de cacher l'enfant pendant 3 mois, l'enfant grandit et petit à petit, ça devient impossible de ne pas faire connaître l'enfant autour d'eux. Et c'est pourquoi Jochabed va décider de fabriquer une corbeille de joncs et de placer l'enfant et de poser cette corbeille sur l'eau du Nil. Et voilà donc la corbeille qui quitte le rivage et qui part dans une direction inconnue. Et finalement, voilà que cette corbeille de joncs va partir dans la direction de la maison du pharaon. Et il se trouve que juste à ce moment-là, la fille du pharaon se trouvait au bord du Nil. Et elle voit cette corbeille de joncs qui flotte. Alors, prise de curiosité, elle s'approche, elle ouvre la corbeille et qu'est-ce qu'elle voit ? Un bébé d'une beauté extraordinaire. Alors, prise de compassion et en même temps, de par son instinct maternel, elle décide de garder l'enfant. Et ici, par un effet de la providence, ça paraît bien sûr extraordinaire, il se trouve que la fille du pharaon va chercher une nourrice dans le peuple hébreu. Et cette nourrice qu'elle va choisir, c'est finalement Jochabed, Jochabed qui était la mère de l'enfant. La princesse va appeler alors son petit protégé du nom de Moïse. Moïse qui signifie « sauver des eaux ». Et finalement, la princesse, éprise par la beauté et par l'intelligence de l'enfant, va décider d'en parler à son père. Et son père va l'accueillir favorablement. Mais alors, son père, le pharaon, avait décidé en ce moment-là d'en faire son héritier, puisque il n'avait pas eu de fils. Et puis, alors il met sa couronne sur la tête du bébé, et Moïse, il prend la couronne, qui était encore dans le bébé, il prend la couronne et il se met à piétiner la couronne. Si bien qu'en ce moment-là, le pharaon est furieux, mais ça ne va pas empêcher donc Jochabed de protéger le petit Moïse. Et alors, donc la fille du pharaon et Jochabed vont tous les deux vivre en partie ensemble, si bien que Jochabed va apprendre la vraie religion à la fille du pharaon, et en même temps l'amour de sa race. Alors le commentaire mystique et moral, la fille du pharaon est l'image de la gentilité, c'est-à-dire des peuples païens qui doivent se convertir à la vraie religion. À la croisée des chemins, vers l'âge de 40 ans, selon les actes des apôtres, Moïse va se sentir pris du désir d'aller visiter les Hébreux, ses frères. C'était pour lui le moment de choisir. Ou bien la carrière facile et brillante d'héritier du pharaon, puisqu'il était le fils adoptif et que le pharaon n'avait pas d'autres enfants, ou alors la persécution, qui était le lot du peuple auquel il appartenait par le sang. Et vu la grandeur d'âme de Moïse, il ne va pas hésiter. Comme le dit saint Paul, c'est par la foi que Moïse renonça à être le fils de la fille du pharaon, choisissant plutôt d'être persécuté avec le peuple de Dieu que de profiter des plaisirs du péché dans le temps. Et cela est décrit dans la lettre de saint Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 25, ce qui vous montre toujours que le commentaire de la Sainte Écriture se trouve dans la Sainte Écriture. Moïse fit alors le tour de la terre de Gessen, donc la terre qui se trouve au nord de l'Égypte, là où se trouvaient en ce moment-là les Hébreux, pour voir comment les Égyptiens les traitaient. Et alors il fut bien sûr indigné par la cruauté des gardes chiournes, et un jour il voyait l'un d'entre eux rouer de coups un Hébreu. Il le frappa à mort, n'arrivant pas à maîtriser sa force. Il a voulu l'assommer. Et voilà que le manque de peau, l'Égyptien, fut frappé à mort. Et alors, le lendemain, il a vu deux Hébreux qui se battaient. Il a voulu les séparer. Et en ce moment-là, il y a un des deux Hébreux qui lui dit « Voudrais-tu peut-être me mettre à mort comme tu as mis à mort hier l'Égyptien ?» Et alors, il ne pensait pas du tout avoir été vu la veille, et voyant cela, finalement, il va quitter cette terre de Gessen et se réfugier dans la terre de Madian, au nord du pays. Là, il va être accueilli par le chef local du nom de Jéthro, et il va épouser une des sept filles de Jéthro, qui s'appelait Séphora. Il va en avoir deux enfants, Gersa et Eliezer. Ensuite, Ramsès II, enfin, va finir par mourir à son tour après plus de 50 ans de règne. Et alors, le peuple hébreu va supplier le bon Dieu de lui envoyer un libérateur. Et Dieu, dit l'Écriture, regarda les fils d'Israël et il les connut, pour indiquer que le bon Dieu allait prendre en pitié son peuple. Commentaire mystique et moral de ce passage, Moïse, en agissant de la sorte par rapport à l'hébreu opprimé, ne faisait que son devoir. Mais c'est vrai qu'il outrepassa la mesure en allant jusqu'au meurtre. Et les pères de l'Église font un petit peu une comparaison avec saint Pierre qui coupe l'oreille de Malchus. Cela pour dire que même les saints n'ont pas toujours bien commencé, mais ils ont toujours bien fini. Donc il y avait un certain excès de zèle et qui montre qu'il avait encore à progresser dans la voie de la sainteté. Et au sens allégorique, Moïse qui abandonne le palais du roi pour délivrer ses frères est bien sûr l'image et la figure de notre Seigneur qui quitte le royaume des cieux pour sauver ce dont il s'était fait le frère par l'incarnation. Il tue l'Égyptien, c'est-à-dire qu'il donne un coup mortel au prince de ce monde. Et c'est ça qui est très beau, c'est de voir toujours le rapport entre le sens littéral et le sens spirituel du passage. Alors pour certains passages, ça nous paraît... Le sens spirituel est parfois difficile à comprendre, mais là, dans le cas présent, c'est vrai que c'est très beau. Ensuite, l'épisode du buisson ardent. Donc, les 40 premières années, nous avons vu donc la naissance de Moïse et la vie de Moïse auprès de la fille du Pharaon. Maintenant, pendant 40 ans, Moïse va parcourir la péninsule du Sinaï, s'appliquant à la recherche de Dieu dans le silence des pâturages. Et il va aller jusqu'au mont Horeb. Donc il va partir vers le désert, jusqu'au mont Horeb qui se trouve au nord du mont Sinaï. C'est là qu'il va écrire le livre de la Genèse. Vous savez que le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Et un jour, sur le mont Horeb, il va voir soudain un feu embraser un buisson d'acacia. Mais la lumière de ce feu était extraordinaire. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Alors il va approcher, maîtrisant sa crainte, pour voir ce phénomène curieux, ce phénomène extraordinaire, de plus près. Et c'est alors qu'il va entendre une voix qui lui dit « Moïse, Moïse, ne t'approche pas, enlève la chaussure de tes pieds, cette terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. » D'après les pères de l'Église, cette voix céleste était la voix d'un ange. Et la voix poursuit son monologue. « J'ai vu l'affliction de mon peuple, je le ferai sortir de ce pays et je le conduirai dans une terre bonne et spacieuse où coule le lait et le miel. Viens, je t'enverrai au Pharaon afin que tu retires de l'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Et alors, à deux reprises, Moïse se sent indigne de cette mission. Et il va chercher à deux reprises à se dérober, se sentant indigne de remplir une telle mission. Mais Dieu va renouveler à nouveau sa volonté par l'intermédiaire de l'ange. Et alors Moïse lui demande son nom. Et la réponse de Dieu, qui parle à travers l'ange, « Ego sum qui sum »,« Je suis celui qui suis ». C'est le nom ineffable, incommunicable, que les Hébreux n'osaient pas prononcer. Sinon le grand prêtre, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, une fois par an, il prononçait ce nom de Dieu. Et cette traduction de l'ego sum qui sum a donné en langue vulgaire Jéhovah ou encore Yahvé. Le commentaire mystique et moral, Moïse qui passe 40 ans en Égypte sans trouver Dieu, 40 ans dans le désert sans le trouver également, et qui finalement, au bout de ces 40 ans, finit par le trouver, lorsqu'il pénètre à l'intérieur du désert, et là, pour nous indiquer qu'il ne suffit pas de se retirer dans la plus grande solitude extérieure pour trouver Dieu, mais qu'il faut entrer dans le désert intérieur de notre âme. C'est là que l'on peut trouver notre Seigneur. Dieu va ensuite préciser sa mission à Moïse. Dans un premier temps, Moïse doit rassembler les anciens d'Israël et lui convaincre que Dieu lui est apparu pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Ensuite, il doit aller avec eux voir le Pharaon pour lui demander d'offrir au Dieu des Hébreux, à 3 jours de marche dans le désert, un sacrifice. Dieu annonce en ce moment-là que le Pharaon va refuser, mais qu'il ne doit pas craindre parce qu'il fera tomber quantité de plaies qui finiront par lasser le Pharaon et qui finalement les laissera partir. Il lui conseille d'ailleurs de ne pas partir les mains vides mais que les femmes des Hébreux prennent des objets d'or et d'argent chez leurs logeuses. Et alors, Moïse pose l'objection, mais ils ne me croiront pas si je dis que je viens de la part de Dieu. Et alors, le bon Dieu lui donne trois signes. Le premier signe est le suivant. Il tenait dans sa main un bâton. Il lui dit, jette ton bâton. Il jette le bâton et le bâton se transforme en serpent. Et alors, en serpent, paraît-il monstrueux. Et ensuite, on lui demande de prendre le serpent par la queue. Alors j'imagine qu'il a dû avoir un instant de panique. Mais comme il se maîtrisait, il prend le serpent par la queue et finalement le serpent redevient bâton. Et il lui dit, mais si après ce premier signe, on ne me croit pas, est-ce que vous pourriez me donner un autre signe? Alors on lui dit, Dieu lui dit, mets la main sur ton sein. Il met la main et sa main devient lépreuse. Et ensuite on lui dit de refaire le même geste. Et sa main guérit. Et mais si on ne me croit pas après ce deuxième signe, et alors en ce moment-là, Dieu lui promet que l'eau du fleuve se changera en sang. Donc finalement, Dieu va donner, et cela c'est le premier exemple de la Sainte Écriture, à Moïse le pouvoir de faire des miracles pour mener à bien sa mission. Mais malgré cela, Moïse a toujours une forme de réticence. Ça lui paraît difficile à accomplir. Et cela manifeste peut-être une certaine faiblesse, mais aussi une grande humilité. Il ne se pensait pas capable d'accomplir une telle mission. Et alors Dieu, en ce moment-là, va lui adjoindre son frère Aaron pour lui servir d'interlocuteur. Il prétend ne pas savoir parler suffisamment, ne pas pouvoir bien s'exprimer pour arriver à convaincre le Pharaon. Et alors Dieu lui dit, eh bien, c'est ton frère Aaron qui parlera. Mais c'est lui qui doit avoir les communications divines. Et alors, finalement, Moïse finit par acquiescer. Alors Moïse renvoya sa femme chez son beau-père et elle y resta jusqu'après les événements du Sinaï, que nous verrons tout à l'heure. Alors le bâton transformé en serpent est l'image du péché. Or, notre Seigneur s'est fait péché pour nous, en quelque sorte, c'est ce que dit saint Paul, puisqu'il a pris, il a porté sur lui nos propres péchés, et c'est en ce sens que le serpent peut être une image de la nature humaine de notre Seigneur. La main devenue lépreuse, alors ça c'est beaucoup plus beau peut-être encore comme symbole et plus marquant, c'est notre Seigneur qui quitte le sein du Père, c'est pour ça qu'on lui avait dit de porter la main sur son sein et de la ressortir. Notre Seigneur qui quitte le sein du Père et qui prend la nature humaine avec toutes ses misères. Et cette main devient lépreuse parce que en prenant la nature humaine, pour notre Seigneur, c'est comme qu'il prenait encore la nature du pécheur, de la lèpre qu'est le péché, puisqu'il a porté sur lui nos propres péchés. Quand Moïse se rend, alors maintenant la visite de Moïse chez le Pharaon. Quand Moïse se rendit chez le Pharaon pour la première fois avec les anciens du peuple, celui-ci non seulement refusa d'accéder à sa demande, mais va encore redoubler de sévérité à l'égard des Hébreux, si bien que les Hébreux vont s'emporter contre Moïse et contre Aaron. Alors comme première démarche, c'est pas tout à fait satisfaisant. Alors Moïse est complètement décontenancé. D'un côté, il voit le refus du Pharaon, on lui demande d'accomplir une mission, le Pharaon refuse, et il voit en plus que le peuple juif qu'il vient délivrer se met déjà à réagir fortement contre lui. Mais alors Dieu va lui apparaître à nouveau et renouveler la promesse de faire de lui le libérateur de son peuple. Commentaire mystique et moral, le refus du Pharaon de laisser les Hébreux offrir un sacrifice au Seigneur est l'image du démon qui s'insurge contre la sanctification du jour du Seigneur et qui fait tout pour nous empêcher de bien remplir le précepte dominical. Alors, puisque le Pharaon refuse, eh bien, Moïse décide d'accomplir les miracles que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Et il commence par les serpents. Alors, il prend son bâton, il demande à... C'était le Aaron qui tenait le bâton, il demande à Aaron de lancer le bâton devient serpent, et il reprend le serpent par la queue, et voilà qu'il redevient bâton. Mais à ce moment-là, le pharaon, au lieu de finir par reconnaître la puissance divine de Moïse, en est furieux. Il fait appeler tous ses enchanteurs et ses sorciers et lui demande de faire la même chose. Et voilà que les enchanteurs et les sorciers prennent des bâtons. Les bâtons redeviennent serpents. Et ensuite, ils redeviennent bâtons. Alors finalement, à un moment donné où les bâtons des enchanteurs étaient transformés en serpents, Aaron prend son bâton et puis qui se transforme en serpent, qui se met à avaler tous les serpents des enchanteurs. Mais comme cela n'est pas suffisant pour convaincre le pharaon, eh bien il y aura les 10 plaies d'Égypte qui vont commencer. La première plaie va être le changement des eaux en sang. Toutes les eaux vont se transformer en sang. Ensuite, ce seront des grenouilles qui vont remplir tout le pays. Quand on dit tout le pays, c'est jusque dans les maisons, jusque sous les oreillers. Des grenouilles partout. Ensuite, ce sera des nuées d'insectes qui vont tourmenter les hommes et les animaux. Ensuite, de grosses mouches venimeuses. La cinquième, une horrible peste qui fera périr tous les animaux. La sixième, des ulcères qui vont couvrir les hommes et les animaux. La septième, une grêle épouvantable qui va dévaster les champs. La huitième, des sauterelles qui vont détruire ce que la grêle avait épargné. La neuvième, d'épaisses ténèbres qui vont couvrir l'Égypte pendant 3 jours. Et finalement, la dixième, ça va être la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Et alors, face à tout cela, eh bien, le pharaon va devoir céder. Mais avant de frapper le pays de la dixième plaie, Moïse, sur l'ordre de Dieu, rassemble les enfants d'Israël et leur dit « Au 14e jour de ce mois, qui sera désormais le premier de l'année, vous allez prendre par famille un agneau sans tache, mâle et d'un an. Vous l'immolerez vers le soir et vous teindrez de son sang les portes de vos maisons. Vous mangerez cette nuit-là sa chair rôtie au feu avec du pain azyme et des laitues amères. Pendant le repas, vous aurez les reins sains, les souliers aux pieds et un bâton à la main. Vous mangerez à la hâte, car c'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur. » Et c'est cette Pâque juive qui a été ensuite perpétuée jusqu'à la venue de notre Seigneur. Sortis des Hébreux de l'Égypte, les Israélites firent ce que Dieu leur avait prescrit. Vers le milieu de la nuit, l'ange exterminateur passa en Égypte. Tous les premiers-nés furent frappés de mort, depuis le fils du pharaon jusqu'au fils de l'esclave. Un long cri de douleur et d'épouvante retentit dans tout le pays, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Et alors, dans la nuit même, le roi va faire venir Moïse et Aaron et va leur dire « Sortez vite du milieu de mon peuple et allez offrir à votre Dieu le sacrifice qu'il vous a demandé. Emmenez aussi vos troupeaux et priez le Seigneur pour moi. » Et alors, ils vont s'en aller. Mais aussitôt qu'ils sont partis, pour ainsi dire, ils commencent à réaliser l'erreur qu'il a faite. Parce qu'ils voient tout le travail que faisaient les Hébreux et que maintenant les Égyptiens devraient faire à sa place. À leur place. Si bien qu'il va décider de les poursuivre. Alors, pour guider les Israélites, Dieu marchait devant eux en colonne de nuée pendant le jour et en colonne de feu durant la nuit. Cependant, donc, le pharaon va se mettre à leur poursuite avec 600 chariots de guerre et une nombreuse armée. Pris en ce moment-là entre la mer et l'armée égyptienne, le peuple d'Israël fut dans la consternation et va commencer à éclater en murmures. Et ces murmures ont duré, comme nous le verrons malheureusement, pendant 40 ans. « Cessez de craindre, leur dit Moïse. Aujourd'hui même, vous verrez Dieu combattre pour vous. » Alors c'est sûr que pour eux, ce n'était pas évident, puisque ils étaient coincés entre... Donc ils avançaient vers ici, et donc ils étaient coincés d'un côté par la montagne. Il y avait la montagne de chaque côté, et de l'autre côté, par le fleuve, par la mer Rouge. Et soudain, la nuée qui précédait les Israélites vint se placer entre eux et les Égyptiens, si bien que les Égyptiens n'arrivent plus à retrouver les Hébreux. Et alors, en ce moment-là, le bon Dieu demande à Moïse d'étendre sa baguette sur la mer, et les eaux, comme vous savez, vont se diviser de chaque côté. Et finalement, elles vont former une muraille qui permettront aux Hébreux de traverser. Et une fois que tous les Hébreux ont traversé, la nuée qui a empêché les Égyptiens de voir va disparaître, si bien que les Égyptiens vont poursuivre les Hébreux à travers la mer. Et lorsque le dernier des Hébreux sera passé, le bon Dieu va demander à Moïse de remettre son bâton sur l'eau. Et en ce moment-là, elle va s'engloutir. L'eau va engloutir l'armée des Égyptiens. Et au sortir de la mer Rouge, les Hébreux vont s'enfoncer dans le désert. Et l'eau va venir à manquer. Au bout de 3 jours de marche, on finit par en trouver, mais seulement elle était amère. Alors à nouveau, le peuple hébreu va murmurer contre Moïse. Moïse, en ce moment-là, va consulter le Seigneur, et Dieu va lui indiquer, en ce moment-là, une espèce de bois qui va permettre à l'eau de redevenir douce. Et alors, ce qui est un peu curieux, c'est sûr, c'est cet itinéraire emprunté par les Hébreux dans le désert. Ils sont partis donc de Ramessès. Nous les voyons donc traverser la mer Rouge. Ils vont passer près du mont Horeb et ils vont aller jusqu'au mont Sinaï. Mais ensuite, nous verrons pourquoi ils vont faire ce trajet-là. Ils vont remonter jusqu'à Kadès. Ensuite, ils vont partir à l'ouest. Ils vont revenir, ils vont redescendre. Ils vont repasser à Kadès. Ils vont redescendre jusqu'au mont Hor. Et ensuite, ils vont aller jusqu'au mont Nebo. Et nous verrons Moïse qui va mourir au mont Nebo, et ce sera Josué qui aura le privilège de faire rentrer les Hébreux dans la terre promise, en passant par Jéricho, après avoir fait 7 fois le tour de la ville, avant que les murailles ne s'écroulent. Alors, en arrivant au désert de Sin, les provisions emportées d'Égypte ont fini par s'épuiser. Comme d'habitude, le peuple éclate en murmures. « Pourquoi, dit-il à Moïse, nous avoir fait quitter l'Égypte où nous mangions à satiété du pain et de la viande pour nous faire mourir de faim dans ce désert ?» Et alors, à ce moment-là, le bon Dieu promet de lui donner une nourriture extraordinaire. Et cette nourriture, ce fut la manne. Enfin, au départ, il y a d'abord eu un vol énorme de cailles qui vint s'abattre sur le camp. Et le lendemain matin, le sol fut couvert de toutes petites graines rondes ressemblant à de la gelée blanche. Et à cette vue, le peuple s'écria « Manou », ce qui signifie « Qu'est-ce ceci ? Qu'est-ce que c'est ?» Et d'où le nom de manne. Moïse leur dit « Voilà le pain que le Seigneur vous envoie, vous en ramasserez une mesure par tête, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour une journée. » Mais comme toujours, certains ont voulu faire des provisions, en ont pris pour plusieurs jours, mais le lendemain matin, la manne avait fini par se corrompre, sauf pour le jour du sabbat. En ce moment-là, comme ils ne devaient pas travailler le jour du sabbat, ils ne devaient pas, pour ainsi dire, pas non plus se déplacer, on leur donnait une mesure pour 2 jours. La manne ne tombait pas le jour du sabbat. Alors, ces nourritures providentielles appelées manne avaient le goût de la farine délayée dans du miel. Et il fallait également la ramasser de bonne heure, parce que dès que le soleil montait, en ce moment-là, la manne fondait au soleil. Le rocher d'Horeb. De Sin, les Israélites allèrent camper à Raphidim. Là, l'eau vint encore à manquer, ce qui excita de nouveaux murmures. Moïse dit alors au Seigneur, « Que ferai-je ce peuple ? Il faut de bien de peu qu'il ne veuille me lapider. » « Prends ta verge, répondit le Seigneur, va à Horeb, frappe le rocher en leur présence et il te donnera de l'eau. » Moïse obéit et le peuple put se désaltérer. En ce moment-là, il y aura un combat ensuite contre les Amalécites. Et au cours de cette bataille, Moïse servait toujours d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Chaque fois que Moïse avait les bras étendus vers le ciel, en ce moment-là, les Hébreux gagnaient. Et au contraire, lorsqu'il n'arrivait plus à soutenir ses bras, en ce moment-là, les Hébreux perdaient. Et finalement, bien, Hur et Aaron se mettront l'un à gauche et l'autre à droite pour soutenir les bras de Moïse, pour permettre aux Hébreux de gagner contre les Amalécites. Dieu ensuite va donner sa loi aux Israélites. Environ 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Hébreux arrivèrent au pied du mont Sinaï. Donc vous voyez, quand on voit qu'ils ont mis 3 mois pour descendre jusqu'au mont Sinaï, et qu'ils mettront ensuite 40 ans pour arriver à Jérusalem, jusqu'à Jéricho, ça paraît disproportionné. Mais tout à l'heure, nous le verrons pourquoi. Environ 3 mois après leur sortie de l'Égypte, les Hébreux arrivèrent au pied du mont Sinaï. Là, Dieu leur manifesta sa présence d'une manière sensible. Moïse leur prescrivit de se purifier, de laver leurs vêtements et de se tenir en deçà des barrières qu'il plaça tout autour de la montagne. Dans 3 jours, leur dit-il, le Seigneur descendra et fera entendre sa parole au peuple tout entier. Dès le matin du 3e jour, on entendit les éclats du tonnerre. Des éclairs sillonnaient le ciel et une nuée très épaisse couvrait la montagne. Le son des trompettes se mêlait à ce bruit formidable et le peuple fut saisi de terreur. Et malheureusement, cette terreur, comme nous le verrons, ne suffira pas pour leur faire conserver la crainte de Dieu. Moïse le fit avancer au pied de la montagne qui paraissait tout en feu et tremblait sur ses bases. Et du fond de la nuée, l'Éternel parla. « Je suis Jéhovah, le Seigneur ton Dieu qui t'est tiré de l'Égypte. » Et c'est là qu'il donne les 10 commandements. « Tu n'auras pas de Dieu étranger devant moi, tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune représentation pour les adorer. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne tueras point, tu ne te rendras pas coupable d'impureté, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne désireras point la femme de ton prochain, tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. » Les Israélites, remplis d'effroi, se tenaient éloignés de la montagne et criaient à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que le Seigneur ne nous parle plus, car nous allons tous périr ici. » Alors Moïse les rassura, et ayant remis le gouvernement à son frère Aaron, il va monter sur le Sinaï. Et là, il va rester 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Et pendant ce temps, le Seigneur va l'instruire de tout ce qui concernait le culte et le gouvernement du peuple d'Israël. Et ensuite, il va lui remettre les fameuses tables de la loi gravées sur la pierre. Et ensuite, Moïse va redescendre. Cependant, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, contraignit Aaron à lui faire un veau d'or. Quand l'idole fut achevée, la foule s'écria, « Voilà ton Dieu, ô Israël, voilà celui qui t'a tiré de l'Égypte. » Et alors on dressa un autel devant cette honteuse idole, on lui offrit les sacrifices, et ensuite le peuple se mit à boire, à jouer et à danser à la manière des idolâtres. C'est incroyable de penser le nombre de miracles qu'avaient vus les Hébreux depuis leur sortie d'Égypte. Et entre autres, le grand miracle, il y avait déjà les plaies d'Égypte, mais ensuite le grand miracle de la mer Rouge, et cela n'avait pas suffi pour les conserver dans la fidélité. Moïse, portant les tables de la loi, descendait en ce moment du Sinaï. Alors vous imaginez Moïse qui venait d'approcher de Dieu, qui avait une idée vraiment juste de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, et qui descend et qui voit ainsi le peuple qui vient de se pervertir. Alors en ce moment-là, il rentra dans une sainte colère, il brisa au pied de la montagne les tables qu'il tenait à la main, prenant ensuite l'idole, il la réduisit en cendres. Il ordonna aux enfants de Lévi, qui étaient restés fidèles au Seigneur, de s'armer de l'épée et de passer et de repasser à travers le camp pour exterminer tous les idolâtres. Et plus de 23 000 Israélites périrent en un seul jour. Et le lendemain, Moïse remonte dans la montagne pour intercéder en faveur du peuple coupable. il est toujours, on voit toujours qu'il sert d'intermédiaire entre Dieu. D'un côté, il manifeste la justice de Dieu, et d'un autre côté, il sert d'intermédiaire auprès de Dieu pour que le bon Dieu soit miséricordieux pour son peuple. Laisse-moi, lui dit Dieu, laisse-moi exterminer ce peuple ingrat et rebelle, et je te ferai chef d'une grande nation. Et Moïse répondit, votre peuple a péché, cependant, Seigneur, daignez lui pardonner, ou bien effacez-moi de votre livre de vie. Le Seigneur se laissa toucher, mais il ajouta, au jour de la vengeance, je punirai ce péché qu'ils ont commis. Après 40 jours et 40 nuits, Moïse revint vers les Israélites avec 2 nouvelles tables de la loi. Son visage était si éblouissant que désormais il dut se voiler la tête quand il parlait au peuple. Et alors ils vont repartir maintenant depuis le mont Sinaï vers la terre promise. On pourrait penser qu'en 4 mois plus tard, ils seraient arrivés du côté de Jéricho. Mais voilà, les Israélites séjournèrent environ 1 an au pied du mont Sinaï. Peu après la célébration de la seconde Pâque, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle et le peuple se mit en marche vers la terre promise. On traversa alors un affreux désert et l'on arriva à Kadès, sur la frontière méridionale du pays de Canaan. Au bout de 40 jours, les explorateurs revinrent, rapportant des fruits magnifiques, entre autres une grappe de raisin que 2 hommes portaient sur une perche. Ce pays, dirent-ils, est extrêmement fertile. Il y coule des ruisseaux de lait et de miel. Mais les villes sont des forteresses imprenables et les habitants sont des géants auprès desquels nous ne paraissons que comme des sauterelles. Et alors à ce récit, de violents murmures éclatèrent de toutes parts contre Moïse. Donc ceux qui avaient été amenés, j'ai marqué espions, pour voir du côté de la terre promise comment se trouvait la végétation, en même temps les habitants, ils ont démoralisé totalement les Hébreux qui de nouveau se sont révoltés contre Moïse, à l'exception de Caleb et de Josué. Et c'est pourquoi il n'y aura que Caleb et Josué qui auront le privilège de rentrer, parmi ceux qui étaient partis au départ, de plus de 20 ans, de rentrer dans la terre promise. Tous les autres mourront dans le désert. Le Seigneur, irrité, dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple continuera-t-il de m'outrager? Je vais l'exterminer et je t'établirai chef d'un grand peuple qui sera meilleur que celui-ci. » Donc de nouveau, Dieu fait appel à sa justice. Mais Moïse va faire appel à la miséricorde. « Je vous en prie, Seigneur, répondit Moïse, pardonnez à votre peuple selon la grandeur de vos miséricordes. » Dieu lui dit, « Je cède à ta prière et je pardonne encore aux enfants d'Israël. Mais tu leur diras, vos cadavres joncheront le désert. Aucun de ceux qui avaient 20 ans à la sortie de l'Égypte n'entrera dans la terre promise, hormis Caleb et Josué. Pendant 40 ans, vos enfants erreront dans le désert. » C'est ce qui explique donc la pérégrination des Hébreux pendant 40 ans dans le désert. À l'instant même, les 10 espions qui avaient excité la sédition furent frappés de mort. Et le lendemain, contre les ordres de Dieu, les Israélites essayèrent de pénétrer en Canaan. Mais les Amalécites et les Cananéens les refoulèrent dans le désert. Comme ils pensaient qu'ils étaient à côté, ils ont voulu y aller, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors ils ont dû rebrousser chemin. Pendant que les Israélites erraient ainsi dans le désert, il arriva qu'un homme fut surpris à ramasser du bois le jour du sabbat. Ça ne pourrait pas grand-chose, hein, ramasser du bois. On l'amena à Moïse qui consulta le Seigneur. « Qu'il soit lapidé hors du camp par tout le peuple, lui fut-il répondu. » La justice de Dieu. Donc c'est important la sanctification du jour du Seigneur. Un autre jour, dans une querelle, un Israélite ayant blasphémé le nom de Dieu fut encore amené à Moïse. Le Seigneur consulté répondit, « Emmenez hors du camp ce blasphémateur, que tous qui ont entendu ces blasphèmes mettent la main sur sa tête pour attester que le crime a été commis, qu'il soit ensuite lapidé par tout le peuple. Ainsi sera puni quiconque aura blasphémé le nom du Seigneur. » Imaginez qu'aujourd'hui la loi soit la même vis-à-vis de tous ceux qui profanent le sabbat ou qui blasphèment contre Dieu. Il y aurait plus de gens lapidés que de lapidateurs, si on peut dire. Il n'y aurait plus de pierre.
Quelque temps après, Corée, Dathan et Abiron, avec 250 autres Israélites, tous princes du peuple et lévites, vont se révolter contre Moïse, qu'ils accusèrent d'usurper l'autorité souveraine. Présentez-vous tous demain devant le sanctuaire, leur dit Moïse. Aaron s'y présentera aussi, et le Seigneur décidera entre vous. Donc, nouvelle révolte. Le lendemain, les 250 lévites se présentèrent devant le tabernacle avec un encensoir. Mais Corée, Dathan et Abiron refusèrent de venir. Moïse se rendit auprès de leur tente et dit au peuple « Éloignez-vous de ces impies de peur de partager leur châtiment. » Alors quand Moïse avait parlé, valait mieux obéir. Il ajouta « Si ces gens meurent de la mort naturelle, ce sera le signe que je ne suis pas le légitime envoyé de Dieu. Mais si la terre les engloutit, vous saurez qu'ils ont blasphémé contre Dieu. » Et à l'instant même, la terre s'entr'ouvrit, engloutissant les trois révoltés, leurs familles et leurs biens. Et en même temps, un feu partit de la nuée du tabernacle et consuma les 250 lévites qui offraient de l'encens. Je dis, l'Ancien Testament est vraiment très riche pour nous faire comprendre la justice de Dieu. De Dieu, on ne se moque pas. Aujourd'hui, on ne parle plus que amour, charité, Dieu est amour. Enfin, là, on voit bien que ce qui se passait, on peut dire, dans l'Ancien Testament sur la terre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, au moment du jugement dernier. Le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, avait promis des biens matériels, en partie, à ceux qui accomplissaient la loi. Et au contraire, eh bien, les autres étaient punis sur le champ. Eh bien, aujourd'hui, le bon Dieu attend la mort pour exercer sa justice et sa miséricorde. Mais ce n'est pas parce que le bon Dieu ne fait pas appel toujours au moins à sa justice ici-bas qu'il ne fera pas appel un jour. Et c'est ce qui est justement redoutable pour les pécheurs endurcis. Le Seigneur dit ensuite à Moïse « Que le prince de chaque tribu inscrive son nom sur une verge. Sur celle de Lévi, tu inscriras le nom d'Aaron. Réunis ensuite ces 12 verges et dépose-les dans le tabernacle en présence du peuple. » La verge de celui que j'ai choisi pour le suprême sacerdoce fleurira. Moïse fit tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le lendemain, la verge d'Aaron était couverte de bourgeons, de feuilles, de fleurs et même de fruits mûrs. Cette verge miraculeuse fut déposée dans l'arche d'alliance comme un témoignage permanent en faveur du sacerdoce d'Aaron. C'est pourquoi donc c'est la tribu de Lévi qui fut choisie pour exercer le sacerdoce, d'où le nom de Lévite. Les eaux du rocher de Kadès. Après de longues pérégrinations dans le désert, les Israélites arrivèrent pour la seconde fois à Kadès. Donc ils ont accompli ce tour, ils sont redescendus, et puis ils se retrouvent de nouveau à Kadès. Au commencement de la 40e année depuis la sortie d'Égypte, l'eau manqua et des murmures éclatèrent. C'est une chose habituelle. Moïse invoqua le Seigneur qui lui dit « Rassemble le peuple, avec ta verge miraculeuse, frappe le rocher en leur présence et il te donnera de l'eau. » Moïse convoqua donc tout le peuple et lui dit « Écoutez-vous, peuple de rebelles et d'incrédules, pourrons-nous faire jaillir de l'eau de cette pierre ?» Il leva la main et frappa deux fois le rocher. L'eau jaillit en abondance. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous avez manqué de confiance en moi en frappant deux fois le rocher, vous n'introduirez pas mon peuple dans la terre que je lui donnerai. » On voit la sévérité de Dieu l'exigence de sainteté vis-à-vis des personnes qui sont déjà très avancées en sainteté, c'est sûr. Parce que Moïse à cet instant-là, a douté, voyant lui-même l'ingratitude de ce peuple, il s'est dit, c'est pas possible, le bon Dieu ne pourra pas encore faire un nouveau miracle. Et parce qu'il a douté un instant, donc au lieu de frapper une seule fois l'eau du rocher, il a frappé deux fois parce qu'il a eu une hésitation, eh bien le bon Dieu va le punir, et il n'aura pas cette grâce de... Je ne veux pas dire que c'est une faute grave pour autant, mais c'est suffisant en tout cas pour avoir un châtiment... qui nous paraît presque disproportionné avec la faute, hein, mais qui se comprend à la lumière de Dieu. Plus on grandit en sainteté, plus le bon Dieu est exigeant vis-à-vis de nous. plus on rentre dans son intimité, et plus eh bien, on doit se détacher du péché. De Kadès, les Israélites se dirigèrent vers le mont Hor. C'est là que mourut Aaron, à l'âge de 123 ans. Sur l'ordre de Dieu, Moïse lui enleva ses ornements sacerdotaux et en revêtit Éléazar, fils aîné d'Aaron. Et alors les Israélites continuèrent leur marche. Donc le mont Hor un petit peu plus loin. Fatigués de cette longue route, ils se découragèrent et dirent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte ?» Ça fait déjà 40 ans, c'est sûr qu'ils sont dans le désert. Ils commencent à s'impatienter. Enfin, ils continuent de s'impatienter, plus exactement. « Est-ce pour nous faire périr dans ce désert, où nous n'avons ni pain ni eau, car ce n'est pas une nourriture que cette manne insignifiante et fade qui nous donne la nausée ?» Le châtiment ne se fit pas attendre. Le Seigneur envoya contre eux des serpents dont la morsure brûlait comme du feu. Le peuple accourut à Moïse. « Nous avons péché contre Dieu, s'écria-t-il. Prie le Seigneur d'éloigner de nous ce fléau. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit, « Fais un serpent d'airain et expose-le comme un signe. Ceux qui auront été mordus et regarderont le serpent auront la vie sauve. » Comme je l'avais expliqué pour le premier cours d'Écriture sainte, ce serpent d'airain qui sauve est l'image de notre Seigneur qui nous sauve par sa croix. Tous ceux qui se tournent vers la croix seront sauvés. Moïse obéit et les blessés qui regardaient le serpent étaient immédiatement guéris. Et ensuite, ils continuent encore leur pérégrination. Enfin, ils approchent. C'est le moment où Balaam va prophétiser. De là, les Israélites se dirigèrent vers le Jourdain par le chemin du désert. Les Amoréens et le roi de Basan voulurent s'opposer à leur passage. Ils furent vaincus et les Hébreux devinrent ainsi maîtres du pays qui est à l'orient du Jourdain. Le roi de Moab fut effrayé de ce voisinage inquiétant. Désespérant de vaincre les Israélites par la force, il envoya des messagers à Balaam, célèbre devin de Mésopotamie, pour l'engager à venir maudire le peuple de Dieu afin qu'il puisse ensuite le vaincre. Alors Balaam se met en route, mais l'ange du Seigneur va lui apparaître et lui défendre de maudire. Et à trois reprises, alors qu'on lui demande de maudire le peuple hébreu, il n'arrête pas de le bénir. Alors le roi de Moab est furieux. « Je t'ai payé non pas pour maudire, non pas pour bénir, mais pour maudire. » Mais il ne peut pas faire autre chose que de bénir le peuple. Avant de s'en aller, Balaam dit au roi, « Je vais te dire ce que sera ce peuple et ce qu'il réserve au tien. » Et il prononça alors cette célèbre prophétie qui amena plus tard les mages au berceau de Jésus. « Oui, je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais de loin. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera en Israël. De Jacob viendra le dominateur, il brisera les princes de Moab. » Balaam passa alors chez les Madianites, auxquels il donna le perfide conseil de corrompre les Israélites en les entraînant au culte impur des idoles. Et beaucoup, malheureusement, se laissèrent séduire. La grande tentation dans l'Ancien Testament, c'était l'idolâtrie. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le faux écuménisme, c'est la même chose. C'est une forme d'idolâtrie que de mettre le vrai Dieu et les faux dieux sur un pied d'égalité. Et c'est vraiment le... Quand on voit de quelle manière Moïse a reçu les 10 commandements au sommet du mont Sinaï, Et quand on voit aujourd'hui comment on ne suit plus le premier commandement de Dieu, on comprend mieux la gravité de la crise que traverse l'Église aujourd'hui. Josué sacré par Moïse. Averti de sa fin prochaine, Moïse pria le Seigneur de désigner celui qui désormais conduirait le peuple d'Israël. Dieu lui dit, « Prends Josué, fils de Nun, mon esprit est en lui. » Impose-lui les mains en présence du grand prêtre Éléazar et de tous les Israélites. Désormais, c'est à lui que le peuple doit obéir. Moïse exécuta les ordres de Dieu et il dit à Josué, « Mon fils, sois fort et courageux. Dieu sera avec toi, tu n'as rien à craindre. » Moïse partagea ensuite le pays déjà conquis à l'orient du Jourdain, entre les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Enfin, dernière recommandation de Moïse. Moïse avait aimé les Israélites comme ses enfants. Avant de monter sur la montagne où ils devaient mourir, il leur donna ses dernières instructions avec la tendresse d'un père qui va quitter les siens. « Ô enfants d'Israël, écoutez une dernière fois ma voix défaillante. Souvenez-vous toujours que le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Si vous gardez ses commandements, il vous les élèvera au-dessus de toutes les nations. Vous serez bénis dans vos enfants, dans vos moissons, dans vos troupeaux. Mais si vous refusez de lui obéir, sa malédiction tombera sur vous et sur tout ce qui vous appartient. Donc vous voyez, il promet des malédictions toujours terrestres sur vos troupeaux, sur vos moissons. Parce que l'image du ciel, du purgatoire et de l'enfer n'était pas très nette dans l'Ancien Testament. Et cela pour la bonne raison que le ciel n'était pas encore ouvert, puisque notre Seigneur n'était pas encore venu sur la terre pour nous ouvrir le ciel. Mais si vous refusez de lui obéir, sa malédiction tombera sur vous et sur tout ce qui vous appartient. Je prends le ciel à témoin que je vous ai proposé aujourd'hui la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Ô Israël, choisis donc la vie. Aime le Seigneur ton Dieu, obéis à sa voix, sois attaché à lui pour toujours. Il ajouta ensuite, le Seigneur suscitera un jour au milieu de son peuple un prophète et un législateur comme moi. La vengeance du Très-Haut tombera sur ceux qui refuseront d'écouter sa voix. Et Moïse, finalement, va donner une dernière bénédiction à chacune des 12 tribus d'Israël rangées sur son passage. Et il va gravir seul le mont Nebo, que vous voyez donc à l'est de Jéricho. Parvenu au sommet, il se trouva devant le Seigneur qui lui montra la terre de Canaan. « Voilà, dit Dieu, le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Tu l'as vu, mais tu n'y entreras point. » C'est dans ce lieu que mourut Moïse. Il était âgé de 120 ans. C'est facile la vie de Moïse, hein, 40 ans au service du Pharaon, 40 ans ensuite dans le désert pour se sanctifier, et surtout ensuite auprès du mont Horeb, et ensuite 40 ans dans le désert. Le Seigneur prit soin de sa sépulture, et nul homme n'a connu le lieu de son tombeau. Les enfants d'Israël pleurèrent pendant 30 jours, celui qui fut leur libérateur et leur sage législateur. Donc pleurèrent pendant 30 jours, d'où le fait que l'Église fait dire une messe 30 jours après la mort des défunts. Voilà un petit résumé de la vie de Moïse. Alors j'aurais voulu pouvoir m'étendre davantage, comme j'avais fait au début, sur le commentaire mystique et moral, parce que c'est le plus intéressant. Mais c'est un sujet tellement vaste que, ayant commencé, je me suis rendu compte que je n'arriverai jamais au bout. Et c'est pourquoi je me suis contenté de prendre un résumé dans un livre d'histoire sainte. Un livre d'histoire sainte de cours supérieur, donné à Vannes, donc en Bretagne, de 1941, et fait par les anciens frères de Plohermel. Voilà. Mais sinon, je vous conseille, mon but c'est toujours de vous apprendre à aimer la Sainte Écriture et en même temps à aimer Don de Mauléon à travers ses livres. Et si le livre des Patriarches est introuvable, celui-ci, ce livre de Moïse, je crois, on peut le trouver plus facilement. Donc si certains le désirent, je tâcherai de vous donner satisfaction. Celui des Patriarches, pour l'instant, est de nouveau épuisé. Lorsque j'en aurai, eh bien, je pourrai vous en faire part. Je vous rappelle lundi prochain la conférence de M. l'abbé Laurence sur le Nouvel Âge. Et la prochaine conférence sur la Sainte Écriture portera sur le livre de Job. Également un livre très intéressant. Voilà. Il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas ? Oui ? Alors, normalement, les questions portent sur ce dont j'ai parlé, mais on peut poser des questions sur ce dont... Non seulement c'est sur la dernière fois, mais c'est sur ce dont je n'ai pas parlé, alors. Donc, on en reparlera la prochaine fois, alors. Si vous voulez bien vous lever, on va terminer par une petite prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie.
Priez pour nous, pauvres pécheurs.
Au nom du du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.